Vous écoutez RTL.
Il est 9h. Notre météo à 7 jours, brève, mais avec un retour du temps sec, cher Louis.
Exactement, après encore des pluies aujourd'hui qui devraient traverser toute la France, que l'on retrouvera d'ailleurs cette nuit dans l'Est, eh bien demain matin, on va commencer à connaître l'amélioration dans les régions de l'Ouest. C'est vrai que dans la moitié Est, on conservera encore un ciel nuageux avec quelques pluies, notamment le matin, puis en fin de journée, ces pluies disparaîtront. Et ensuite, eh bien c'est le retour de l'anticyclone à partir de mercredi. Alors un anticyclone qui va s'installer au nord de la France. Donc petit à petit, c'est un vent d'Est qui va s'installer, avec certes de l'air de plus en plus sec, donc plus de précipitations, probablement quelques brumes et brouillards le matin et puis plutôt du soleil l'après-midi. Il restera quelques entrées maritimes près de la Méditerranée, notamment dans le Languedoc-Roussillon, mais sans grandes conséquences. Puis côté température, elles seront de saison, c'est-à-dire que le matin elles seront relativement fraîches avec parfois des gelées, notamment du centre nord-est, et puis l'après-midi on sera autour de 10 degrés dans la moitié nord, 15 degrés dans le sud, et tout ça va nous accompagner jusqu'au week-end où il fera de plus en plus froid quand même. Les gelées seront de plus en plus marquées, les températures repasseront en dessous des moyennes de saison, mais toujours pas de pluie. Et en début de semaine prochaine, je vous en reparlais, mais il y aura peut-être une vraie offensive hivernale avec une très nette baisse des températures, notamment entre mardi et mercredi prochain. Donc en tout cas, retenez le retour du temps sec avec des valeurs de saison.
Louis Baudin.
Passez une bonne matinée sur RTL.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Bonjour Héloïse d'Ormesson.
Bonjour Yves.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Jeudi paraîtra donc à titre posthume dans la maison d'édition que vous avez créée et que vous dirigez, un Hosanna sans fin, l'ultime livre de votre père Jean, décédé le 5 décembre dernier. Ce n'est pas la première fois que vous publiez votre père, mais j'imagine que ce livre-là a aujourd'hui une valeur inestimable pour vous, sa fille Héloïse d'Ormesson.
Absolument. Alors c'est évidemment une énorme émotion, mais une grande joie également, une fête en larmes. Comme il l'a écrit. Et j'ai eu un rapport très 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 étrange à ce livre, parce que il était fabriqué, on nous l'avait livré aux éditions, et je ne parvenais pas à l'envoyer à qui que ce soit. J'avais un sentiment de séparation ultime. Oui. Mais bon, ça y est, c'est passé. Maintenant, il est entre vos mains. Il appartient à ses lecteurs et c'est merveilleux.
Héloïse d'Ormesson, nous allons prendre le temps de parler avec Bernard Lut de ce livre que Jean d'Ormesson a eu l'ultime élégance de vous confier. En studio également, Stéphane Boutsock qui a vu Monsieur. C'est le documentaire consacré à votre père, signé Laurent Delahousse, qui sortira en salle le 5 décembre prochain. Et puis en fin d'émission, Aymeric Partonneau nous livrera les Express du jour. Bernard Lut, qu'avez-vous retenu de la lecture d'un Hosanna sans fin ?
Eh bien, un sentiment d'allégresse, oui. Teinté d'émotion, bien sûr, mais surtout d'allégresse. D'ailleurs, c'est le sens du mot Hosanna. En retrouvant jusqu'aux dernières heures, au dernier souffle de Jean d'Ormesson, son écriture intacte, juvénile. Et surtout l'acuité de son exploration du mystère de la vie. En 140 pages, l'académicien nous offre l'épure de son art, en quelque sorte, un traité de sagesse, de doute aussi, d'inquiétude, mais surtout d'espérance, comme il en avait le secret, bref, le plus joyeux des testaments. Et Louis d'Ormesson, vous, en découvrant ce texte, quel passage, quelle formule ou quelle réflexion vous a frappé, vous a marqué ?
Bah d'abord, l'ouverture du livre. « Grâce à Dieu, je vais mourir ».
« Grâce à Dieu », c'est incroyable.
C'est absolument incroyable. Et c'est tout lui. Et il y a un sentiment d'accomplissement dans ce livre. On sent qu'il... d'ailleurs, il le dit, la troisième phrase, c'est « Je suis au bout du chemin ». Mais il n'y a aucune... C'est pas du tout un livre crépusculaire, c'est pas du tout un livre nostalgique. C'est un livre qui est peut-être un petit peu plus... qui est plus dans la lumière et dans la clarté, et un petit peu moins dans la malice. Il est un tout petit peu moins Hercule Poirot métaphysique que d'habitude, mais il essaie toujours de sonder les mystères, le mystère du monde et de la vie.
Mais parce que vous pensez qu'il avait conscience, justement, il savait que c'était son dernier livre ?
Ma conviction est celle-là. Je pense qu'il avait conscience qu'il n'aurait plus la force d'écrire un autre livre, et que, parce qu'il l'a fini quand même 24 heures avant de mourir. Je ne dirais pas de disparaître, ni de partir, parce qu'il n'a pas disparu et il n'est pas parti. Ça, j'ai bien compris le jour de sa mort, que c'était des termes impropres, que les morts étaient dans le cœur et dans la mémoire des vivants. Et je pense qu'il est dans le cœur et dans la mémoire de nombre d'entre nous.
Alors, il y a quelque chose de très émouvant de ce livre, c'est la façon dont il s'adresse à nous. Je trouve qu'il le fait d'une façon tout à fait particulière. Et oui, c'est sans doute aussi parce que les textes sont courts, comme un ami qui nous parlerait à l'oreille des choses essentielles de l'existence, mais sur lesquelles lui a travaillé et où chaque virgule est pesée comme d'habitude. Ce sont les dernières choses qu'il avait à nous dire en intimité sur l'essence de la vie et de la mort.
Je pense. Je trouve qu'il y a effectivement, il y a cette épure et cette espèce de clarté incroyable, cette simplicité du message, mais qui est quand même d'une grande profondeur. Et c'est vraiment la quintessence de son art. On a l'impression qu'il a un dernier message, effectivement, d'espoir, d'espérance, parce que pour lui, il retenait toujours, en effet, l'allégresse, la promesse. Et puis, il s'étonnait et s'émerveillait de l'énigme de la vie. Pour lui, c'était... En fait, la question, c'était pas pourquoi allons-nous mourir, mais la question est pourquoi sommes-nous nés ?
Voilà. Comment sommes-nous apparus ? Il le dit d'ailleurs, c'est l'un des premiers textes qui est l'un des plus beaux.
Et c'est effectivement extravagant quand on y pense. Seulement, on oublie, on est emporté, et on se dit, bon, on redoute cette fin. En fait, il ne faut pas du tout la redouter.
C'est un livre qui peut rendre serein.
C'est un livre qui doit rendre serein.
Alors, il y a autre chose d'étonnant, puis ça n'est pas déflorer la fin du livre que de le dire, lui qui se disait agnostique, tout en cherchant, étant toujours quand même dans une quête spirituelle, les deux derniers mots du livre sont « Christ Jésus ». Ça là, vraiment, il nous
surprend. Très surprenant. Très surprenant. Ça, je n'ai pas d'explication. J'ai pas d'explication parce que autant il lui arrivait de... Évidemment, il me le disait quand il avait commencé un livre, il pouvait s'en réjouir et être satisfait d'être lancé et content de certains passages, mais il n'évoquait pas le contenu du livre. Donc, et encore moins, évidemment, sa fin. Et je dois dire que... Il disait qu'il était un chrétien agnostique.
Oui.
Et il a toujours dit qu'il espérait en Dieu, mais qu'il n'avait pas la foi. D'ailleurs, c'est l'avant-dernier chapitre, la dernière séquence où il dit que les chrétiens
n'ont pas le droit de se plaindre. D'ailleurs, ils ne se plaignent pas.
Ils n'ont pas le droit de se plaindre parce qu'ils ont la foi et cette certitude. Donc jusqu'au bout, il dit qu'il n'a pas cette certitude, mais il rejoint le Fils. C'était ce qu'il trouvait vraiment fascinant dans la religion catholique, c'était la Trinité. Oui. Et ça le fascinait, il trouvait ça intellectuellement tout à fait extraordinaire.
Et l'incarnation de Dieu dans un homme. Alors, vous avez publié pour la première fois votre père en 2007, donc ce livre, évidemment, ce dernier n'est pas le premier. C'était un recueil de chroniques au dehors du temps. Jean d'Ormesson était venu en parler sur RTL, et un coup de fil surprise attendait l'académicien.
Bonjour,
Patrick. Bonjour, Eloïse.
Ça, c'était une surprise.
Tout à coup, je me dis qu'il faut peut-être pas non plus lasser les lecteurs et les auditeurs. Il faut peut-être éviter de nous envoyer la rhubarbe et le séné et de faire étalage de nos sentiments.
Ce qu'on n'imagine pas, c'est que mon père, quand il publie un livre, a quand même toute une phase d'angoisse.
Je pense qu'il ne faut jamais prendre un livre à la légère. Je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas se prendre au sérieux. Et je crois que je ne me prends pas vraiment au sérieux, mais qu'il faut prendre au sérieux ce qu'on fait.
Alors, Héloïse d'Ormesson, cette idée du recueil, qui l'a eue ?
Écoutez, je crois que c'est le troisième...
Troisième larron.
De la famille. C'est plutôt ma mère, je crois, qui a...
Vous cherchez la mère. Écoutez, je crois que cette histoire familiale va paraître dégoulinante de bons sentiments aux auditeurs qui vont être horrifiés de cette histoire.
Alors, c'est formidable de vous entendre dialoguer ainsi. Et dans votre avertissement, vous expliquez à quel point, mais jusqu'au bout, d'abord, c'est un homme qui écrivait à la main, on le rappelle, et heureusement, il y a un facsimilé de la première page, je crois, du livre de mémoire. Et il n'a cessé de relire, de corriger. On lui ramenait les épreuves une fois dactylographiées. Enfin, c'est un travail incroyable.
Vraiment,
pour aller vers les purs.
Pour aller vers les purs. Et c'était quelqu'un... Enfin, on a souvent dit qu'il avait cette aisance, cette légèreté, cette facilité. En fait, c'était un gigantesque travailleur. Il n'était jamais satisfait. Il mettait des mois à remettre son manuscrit.
Est-ce que vous avez des souvenirs enfants de votre père en train d'écrire ? Je veux dire, physiquement, de le voir écrire.
Je n'ai que des souvenirs de lui en train d'écrire. Quand j'étais enfant, il travaillait, je veux dire, il allait à l'UNESCO tous les jours, donc il n'écrivait que le week-end et le soir. Donc moi, j'ai passé ma vie à voir mon père, il venait, il prenait ses repas avec nous, mais autrement, il écrivait. Et c'était son... Pour lui, Alors, je crois qu'il est, c'était un processus, encore une fois, il y consacrait un temps fou, mais c'était sa nécessité. Donc, il y avait pas, c'est pas quelqu'un qui écrivait dans la souffrance, mais c'était quelqu'un qui écrivait dans l'intensité. Et puis, je ne sais pas si c'était un grand écrivain, mais en tout cas, il a inventé un genre. Jean d'Ormesson, c'est des méditations, ces romans n'en sont pas. Il a choisi les personnages de ses romans, c'est le temps, l'histoire.
Le sens de la vie.
Le sens de la vie.
L'essai narratif. C'est un essai narratif.
C'est un essai narratif.
Réflexion,
narratif.
Mais il raconte en même temps une histoire.
Voilà. Donc c'est assez. Étonnant.
Épatant, comme il le disait.
Avant de marquer une pause, nous vous faisons gagner, vous le savez, hein, aux Annas sans fin. Le dernier livre de Jean d'Ormesson, publié par vous, Héloïse. Pour cela, il faut répondre à la question que vous pose Bernard.
Oh, bah, de quelle célèbre institution ? Allez, un petit indice. Ouais. Située Quai Conti, voilà. À Paris, faisait partie Jean d'Ormesson.
On est un peu rude aujourd'hui avec notre question.
Réponse au vert.
Voilà, réponse au 32-10. On se retrouve dans un instant en votre compagnie, Héloïse d'Ormesson, pour l'apparition d'un aux Annas sans fin aux éditions qui porte votre nom.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Héloïse d'Ormesson est notre invitée à l'occasion de l'apparition jeudi, du livre posthume de son père Jean, Un aux Annas sans fin. Est-ce que vous avez la certitude que ce texte est bien le dernier, Héloïse d'Ormesson ?
Oui, ça j'en suis à peu près sûre. Parce que. Enfin bon, je dois dire que je n'ai pas. Pour l'instant, fouiller le bureau et ouvert tous les placards. Il y a plein de manuscrits parce qu'il les conservait. Donc ça, c'est un travail qu'il va falloir que je fasse. Mais cette année,
vous n'avez pas commencé.
Non, je n'ai pas commencé. Mais je ne crois pas.
Alors, vous nous disiez tout à l'heure que vous avez toujours vu, dès l'enfance, votre père écrire. C'est ce qui vous a suscité chez vous cette vocation d'éditrice. Mais je me suis laissé dire que créer votre maison d'édition portant votre nom et donc le sien, ça n'avait pas été si facile au départ.
Oui, expliquez-moi. D'abord, au départ, je ne voulais pas du tout donner mon nom à la maison. Bon, on devait appeler la maison H2O. Et puis, un ami éditeur m'a dit, mais vous êtes... Alain Carrière, pour ne pas le nommer, m'a dit, mais vous êtes complètement fou. Vous avez une marque, ça serait idiot de ne pas capitaliser. Il avait parfaitement raison. Mais... Et tout d'un coup, j'ai pris conscience qu'en effet, c'était une idée de schnock et qu'il fallait nommer la maison Héloïse d'Ormesson. Et donc, à ce moment-là, je l'ai appris à mon père. Qui s'est raidi et qui m'a dit, mais c'est mon nom. Alors, évidemment, j'ai eu une réponse toute trouvée. C'est-à-dire que je lui ai dit, mais oui, mais bon, c'est quand même le mien.
Le mien aussi. Ça a créé une tension, dites-nous la vérité.
Ça a créé une tension. Ouais. Ça a créé une tension. Mais comme toujours avec lui, c'est-à-dire que ça a même créé un vrai. J'ai eu très, très, très peu de moments de froid ou de crise avec mon père, distance, parce que c'était quelqu'un qui de toute façon désamorçait systématiquement, extraordinairement chaleureux et enthousiaste et qui désamorçait tout. Mais ce jour-là, voilà. Et évidemment, le lendemain, il est arrivé avec des fleurs et c'était la joie. Il m'a dit, mais comment est-ce que j'ai pu...
C'est Jean Do, voilà. Il avait réfléchi.
Il a d'ailleurs dit que la plus belle chose qu'il avait réalisée dans sa vie, c'était vous.
Ne me dites pas ça, je vais...
Devant tous les micros, presque.
Alors, très bien, alors je reprends la main volontairement parce qu'on va éviter l'émotion trop forte, même si on la comprend. Héloïse d'Ormesson, votre père sera présent également au cinéma. C'est le 5 décembre prochain, on pourra découvrir Monsieur, c'est un documentaire signé Laurent Delahousse. Stéphane Boutsock, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous avez pu voir ce film en avant-première et vous avez rencontré le journaliste réalisateur.
Oui, nous étions avec Bernard à cette projection et on est ressorti assez ému, mais aussi le sourire aux lèvres, parce que loin d'être un film mortifère, Monsieur célèbre au contraire tout ce qui faisait de Jean d'Ormesson un personnage unique et essentiel à notre temps, l'esprit, la culture, la vision et puis quelle présence. Laurent Delahousse a bâti son film autour de grands entretiens avec votre papa dans les lieux qu'il aimait. Donc on est chez lui à Paris, on est aussi en Corse, on est en Suisse. On le retrouve à vos côtés, mais aussi en compagnie de votre maman Françoise, de Marie-Sara, votre fille, d'Olivier, son maître d'hôtel, et puis de Dominique, cette précieuse dame qui écrivait sur ordinateur les pages calligraphiées sur papier par Jean d'Ormesson avec ce fameux stylo feutre bleu. Monsieur est un vrai moment de cinéma parce que Laurent Delahousse a soigné l'image, le montage, la musique, le récit, et puis sur le fond, quel personnage que votre père. Le journaliste se souvient de leur tout dernier rendez-vous.
3 jours avant sa mort, il m'a passé un coup de téléphone en me disant qu'il voulait me voir assez vite. Et je suis venu le voir ce jour-là. Il était, fatigué, mais il avait ce col roulé pourpre. cette paire de chaussures en daim pourpre, un pantalon de flanelle grise. Il avait un besoin inouï de me poser des questions sur toute l'actualité. Il m'a dit « Vous savez, Laurent, j'ai toujours pas vu d'image du film. » Et heureusement, j'étais venu avec mon ordinateur et j'avais commencé à monter quelques images. Et je lui montrais 4-5 minutes du film. J'étais extrêmement fragile, je regardais ses yeux, je regardais, voilà. Et il m'a dit « Ça va être merveilleux. » On s'est quitté, il m'a embrassé, il m'a serré un peu plus fort que d'habitude. Et 2 jours plus tard, 3 jours plus tard, au petit matin, la femme que j'aime m'a réveillé en me disant qu'il y avait une très triste nouvelle et que j'allais être très triste. Et j'ai été très triste. Et j'en venais de partir cette nuit-là, voilà. Je pense que je m'y attendais, je pense que j'avais compris qu'il avait besoin de ce dernier rendez-vous. Donc le film s'est monté ensuite, mais je pense qu'il le verra. Là où il sera, il le verra, j'en suis sûr.
Alors, parmi les petits moments de grâce du film, ce qui montre le clan d'Ormesson en famille, Laurent Delahousse vous a observé durant ces mois, et il a ce message pour vous.
Je pense que Héloïse, ça n'a pas dû être tous les jours simple, d'être la fille de Jean d'Ormesson, de se lancer dans le milieu de l'édition en plus, et en même temps, ça a dû être quelque chose de merveilleux. J'ai appris une chose, c'est l'amour infini qu'il avait pour elle. Je pense qu'il avait un petit regret, peut-être, de ne pas avoir assez passé de temps dans la tendre enfance d'Héloïse. Ça, il m'en a parlé, beaucoup. Et c'est pour ça qu'il se rattrapait avec Marie-Sarah, qui est la fille d'Héloïse. Mais je pense qu'Héloïse a bien conscience de tout ça et qu'elle a fait ce chemin de vie aux côtés de son père et que la complicité qu'ils avaient tous les deux était incroyable. Regarder quelques plans, et j'ai beaucoup de rush de tout ça, des regards échangés, de leur promenade en Corse quand ils partent bras dessus, bras dessous, il y a une tendresse incroyable. Donc ça, je l'ai appris et je l'ai bien vu. Et en tout cas, je l'ai entendu de sa part.
Monsieur, le film de Laurent Delahousse sort au cinéma le 5 décembre. On en reparlera. J'ai une question pour vous, Héloïse oui. d'Ormesson. Il avait fait l'acteur, votre papa, en 2012, oui. dans le film Les Saveurs du Palais. Il jouait un président de la République. Est-ce que vous savez s'il aurait aimé écrire pour le cinéma aussi?
Non, je crois qu'il avait un projet, c'était de refaire du théâtre. De faire du théâtre, de monter lui-même sur... de mettre en scène. Un spectacle.
Qu'il aurait écrit.
Qu'il aurait écrit. Je pense qu'il se serait raconté comme il se raconte dans ses livres. Ça, c'était un projet qu'il avait... Je l'ai appris d'ailleurs assez récemment, parce que je rentre de Brive, où Guillaume de Tonquédec a lu ses textes extraordinairement et m'a appris qu'il s'était croisé au théâtre à un moment où mon père allait faire une première tentative, un premier essai. Mais le cinéma, non, je ne pense pas. Rejouer, peut-être. Oui. Mais enfin bon, je pense que c'était quand même un rôle. C'est inouï. Inouï qu'on lui demandait de jouer...
Le président.
Le président. Oui, et puis cette mise en abîme, parce que c'était un président malade, toujours... qui n'en a rien laissé paraître. Et il était lui-même malade. Et je pense qu'il jouait particulièrement bien, parce qu'il y avait aussi cette dimension-là. Parce qu'on le sent... Comme François Mitterrand, très entier, très présent, toujours dans la fonction, mais sentant bien que le chemin s'achève.
Pour nous, il est vivant, puisque le mois dernier sortait le deuxième tome de Célébrer la Pléiade, qu'aujourd'hui ce livre paraît, en tout cas très exactement jeudi, et bientôt ce film. On donne son nom à des écoles et des bibliothèques. Quand on est sa fille, n'est-il pas plus difficile de partager cette même impression?
Non, c'est une réjouissance complète. Et puis de mesurer à quel point il est présent dans les cœurs, dans les mémoires, et que lui qui, dont la leçon était de célébrer la vie, on le célèbre et que donc cette leçon de vie va perdurer, c'est extraordinaire.
On continue la célébration avec grand bonheur et on se retrouve dans un instant, Héloïse d'Ormesson.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Les Express LVT.
Nous sommes toujours en compagnie d'Héloïse d'Ormesson et voici nos Express du jour préparés par Aymeric Partenot de la rédaction d'RTL.fr. Bonjour Aymeric.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
La première chanson du nouvel album de David Hallyday vient d'être dévoilée ce week-end et son clip très symbolique va être, lui, dévoilé demain.
Il publiera le 7 décembre un nouvel album intitulé « J'ai quelque chose à vous dire » et cette première chanson s'appelle « Ma dernière lettre ». Elle est directement inspirée par son père Johnny Hallyday. Le clip sera dévoilé demain à midi. Il a été réalisé par sa sœur Laura Smet. David Hallyday y fait face à un loup aux yeux clairs, allégorie évidente de Johnny.
On n'a pas grandi ensemble, mais on a appris à se connaître. On s'est retrouvés au milieu de nos vies. J'ai découvert qu'elle avait des talents de réalisatrice énormes. Et je ne trouvais qu'il y avait qu'elle sur ce thème-là qui pouvait apporter ce qu'il fallait apporter. Voilà. Parce qu'elle a vécu ce que j'ai vécu. Donc je lui ai confié cette lourde tâche, la pauvre. Elle n'était pas rassurée au début, mais je dois dire que je suis très très fier d'elle parce que le résultat est formidable.
Le loup, dans ce clip, on y voit évidemment une allégorie. Vous avez eu l'idée de ce loup, c'est Laura ?
Non, c'est Laura qui a eu l'idée de ce loup, parce qu'elle me connaît bien. Forcément, elle connaissait très très bien son père aussi. Et le loup est un symbole de force, de leader, de meneur, de transmission aussi. Et donc le loup a été utilisé pour justement raconter cette histoire, pour raconter l'après. Il y a ce lien qui existera toujours.
Trois ans après les attentats du 13 novembre, le Bataclan est en quête d'un nouveau départ.
Oui, le groupe Lagardère, déjà actionnaire, est devenu l'unique propriétaire de la salle mythique. Le 1er décembre, la jeune Florence Jeux, qui dirige actuellement les Francopholies de La Rochelle, prendra la direction du Bataclan. Son objectif est très clair, hein, c'est de faire revenir en masse les artistes dans cette salle. Parmi les prochains concerts, on attend notamment Alpha Blondy le 16 novembre.
À l'occasion du 100e anniversaire de la mort de Solzhenitsyn, plusieurs événements sont organisés, Monique.
Oui, un colloque à l'Institut de France et à la Sorbonne les 19, 20 et 21 novembre sur le thème « Un écrivain en lutte avec son siècle », puis deux soirées au Théâtre de Poche à Paris les 18 et 19 novembre aussi avec le russophile et ancien député Hervé Mariton qui va lire et interpréter le célèbre discours de Solzhenitsyn à Harvard en 1978 et surtout une exposition à la mairie du 5e arrondissement de Paris à partir du 21 novembre. Vous pourrez contempler le manuscrit de l'archipel du Goulag, des livres, sa veste de détenu et même le meuble sur lequel il a écrit l'archipel.
Merci beaucoup Émeric Partenot. Alors, c'était les Express de Laissez-vous tenter. Votre père écrivait tous ces livres, on le rappelle, à la main. Les manuscrits sont-ils tous conservés ?
Je crois. Oui, je crois. Ils souhaitent qu'on les donne à la Bibliothèque nationale, ce qu'on va faire, évidemment.
Mais vous allez le faire.
Oui,
ouais, c'est l'information, ça.
Bah, ouais.
Alors, bien sûr.
Bah, vous avez répondu à la question qu'on se posait tous. Donc, dans un tout petit instant, on va se retrouver pour se séparer, distribuer des cadeaux avec infiniment de plaisir et rappeler à nos auditeurs qu'un Hosanna sans fin, le livre posthume de votre père Jean, paraît jeudi aux éditions Héloïse Dormesse.
Livre testament, je crois qu'on peut dire.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Je ne sais pas si Dieu existe, je suis agnostique. L'agnostique est trop souvent jeté dans le même sac que l'athée, c'est une erreur. Voilà, juste une phrase de ce livre que nous avons tant aimé, un Hosanna sans fin, il paraît jeudi, aux éditions Héloïse d'Ormesson. De quelle institution située à Quai Conti à Paris faisait partie Jean d'Ormesson ? Je vous laisse quand même répondre, Héloïse.
Ah mais c'est à moi de répondre.
C'est à vous de répondre.
Vous laissez la réponse.
L'Académie, non pas du tout, l'Académie française.
Bravo ! Si vous nous avez appelé au 3210, vous avez donc gagné ce livre qui paraît, je vous le rappelle, jeudi prochain. Merci beaucoup d'être venu évoquer Jean d'Ormesson.
Merci. À vous.
Qui est vivant grâce à la littérature oui, et aujourd'hui grâce à vous.
Incroyablement présent.
Bonne
de toute façon, la lecture prête vie à l'auteur.
Merci beaucoup Héloïse Dormesson, merci à toute l'équipe. On retrouve tout de suite Julien Courbet.
Merci Yves, et si vous pouvez monter deux secondes expliquer la phrase du livre que vous avez lu à Hervé Pouchol, ça qui comprend pas ce que vous avez voulu dire. Là.
Mais si, il comprend très bien Pouchol.
Non, c'est pas dans des agnostiques
il fait bien semblant de ne pas comprendre, si vous voulez mon avis.
Merci Yves. Passez une bonne journée.
Bonne émission.